Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous, on se retrouve dans ce deuxième entretien des clés pour vivre, toujours avec Nicolas Sajus, docteur en psychologie et psychothérapeute, et puis expert auprès de la Cour pénale internationale. Cette semaine, on essaie de comprendre tous ces mécanismes autour de l'emprise et du passage à l'acte. Aujourd'hui, après avoir parlé de l'emprise, j'aimerais qu'on regarde de l'autre côté, Nicolas Sajus, du côté du prédateur. Dans certaines affaires, comme cette affaire de Jeffrey Epstein, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais d'une vraie mécanique, d'un vrai réseau. Alors comment fonctionne cette logique un peu? On va essayer de comprendre avec vous cette logique aussi du prédateur.
Oui, tout à fait. Ce sont des personnalités qui sont très typiques en termes de charisme. Alors, dans notre jargon, on appelle ça des personnalités de type narcissique, c'est-à-dire qui sont très centrées sur elles, égocentrées, qui vont là aussi être des personnalités. Alors, vous évoquiez Epstein, mais c'est tous les enjeux de pouvoir par l'argent, par le statut social, là aussi par la dimension charismatique de la personne qui va faire attirance. Ce sont des personnes qui, pour le coup, ont une recherche de contrôle et de maîtrise, surtout de l'autre et des autres, peuvent construire des empires, parce qu'ils utilisent aussi ces empires pour mettre les personnes sous domination, en tout cas, sous leur domination. Et ce sont des personnalités qui vont instrumentaliser l'autre, c'est-à-dire le rendre objet, car elles ont une faible empathie, c'est-à-dire que l'autre devient vraiment l'enjeu de cette domination. Et il fonctionne, là aussi, c'est ce qui met du temps, parce qu'il peut y avoir des personnes très brillantes et intellectuellement très très brillantes qui opèrent par manipulation de la relation. Donc l'enjeu de la relation est pervers, c'est-à-dire que quand on dit pervers, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de plaisir à faire souffrir l'autre, une jubilation à mettre l'autre sous contrôle, et c'est ce qui se crée petit à petit dans le tissage de ces personnalités, de ces prédateurs.
Alors, mais comment se construit cette logique du prédateur? Comment fait-il ce chemin-là? Comment discerne-t-il aussi ses futures proies? Voilà, on parle de ce prédateur comme une personnalité narcissique, hein, où il n'a aucune empathie, vous venez de le dire, mais il jubile et il prend du plaisir. Hein. C'est un peu effrayant, hein, la manière dont vous décrivez le profil narcissique d'un prédateur.
En tout cas, moi, la clinique que j'ai eue en termes d'expertise judiciaire que j'ai eue aussi par rapport à ces personnalités sont liées à des constructions, à des histoires de vie. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, c'est une construction qui s'est réalisée par rapport à ces personnes et qui fait qu'elles sont devenues qu'elles sont dans la prédation. Et les parcours de vie, souvent de violence, d'agressivité, d'abus, de maltraitance, je ne veux absolument pas généraliser, mais ce sont des parcours de vie, en tout cas au plan expertal, qui m'ont montré que beaucoup d'entre eux avaient des histoires de vie très singulières, et là aussi, sur la partie de leur vécu, ont orienté en tout cas leur vie sur des enjeux de structuration de personnalité qui était narcissique et perverse, car très abîmée. Voilà. Le problème de ces personnes, je dirais, c'est qu'elles repèrent très très vite les failles des autres, parce qu'elles vont très très vite aussi, là où c'est inné chez elles, dans leur fonctionnement, avoir un discours qui est très adapté, un lien intense dans l'approche de l'autre, et elles arrivent à créer une très très forte dépendance presque immédiate de par l'aura qu'elles ont. Voilà, et c'est pour ça que cette co-construction de la rencontre qui se fait est vraiment ce sont des radars du repérage des failles de l'autre en fait, et de suite elles arrivent à le repérer.
On peut parler d'une véritable intelligence aussi pour repérer les futures proies, les futures victimes.
C'est tout à fait ça, en tout cas. C'est une intelligence malheureusement malsaine qui va faire du mal, laisser des séquelles, mais c'est tout à fait ça, en fait, oui.
Là, on parle de séquelles, de destruction parfois.
Oh oui, de destruction jusqu'au suicide, complètement, oui.
Ces personnes que vous décrivez, ces prédateurs hein, que vous décrivez aussi dans leur logique, dans leur domination, et puis au fond, cette personnalité narcissique qui jubile, qui instrumentalise, qui domine, qui maîtrise et qui contrôle, c'est un peu effrayant. Comment, dans la vie de tous les jours, et là je pense aux auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui, Nicolas Sajus, comment les repérer tout de suite pour éviter de devenir une cible et une proie.
Alors, ça peut être délicat et compliqué parce que ce sont des personnalités qui peuvent être tout à fait bien insérées dans la
Elles sont
société.
dans tous les milieux. Ouais.
Exactement. Donc, c'est ce qui est délicat. Voilà. Après, dès qu'on va être sur des dominants où il va y avoir des groupuscules ou des mouvements sectaires en tant que tels, c'est là aussi où il faut se renseigner. Alors, je me permets d'en parler parce que je suis en lien avec eux, mais il y a quand même là aussi, quand il y a des gens un peu connus et où il y a des doutes, c'est se renseigner auprès de la MIVILUD, qui est la
Ah
mission
oui.
interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes. Je tiens à dire ça parce que s'il y a bien un pays, en tout cas en Occident, même dans le monde, qui est très vigilant sur ce processus-là, c'est la France. Nous sommes les seuls, en tout cas, à avoir une institution, pas, mais en tout cas, qui est là aussi pour éclairer les personnes. Et elle a l'aptitude aussi de recenser un nombre de groupes qui est quand même très conséquent et qui peut aussi éclairer les personnes.
Alors, est-ce que ce prédateur, il a certainement aussi une stratégie de repérage et puis d'approche? Est-ce qu'il teste les limites de la personne sur laquelle, voilà, il cible peut-être une approche pour être dans cette stratégie aussi de contrôle, de domination pour qu'elle devienne sa proie?
Alors c'est tout à fait juste parce que dans cette mise en œuvre de stratégie de tester les limites, c'est ce qui va autoriser ou pas à chaque fois avancer d'un pas. Je dis ça parce que j'ai vu dans certains processus de dérive sectaire ou de secte, en fait des gens qui avaient des résistances, c'est-à-dire qui ne rentraient pas dans le moule de pensée. Et là aussi, il y a une exclusion immédiate parce que dans le repérage qui est fait, l'autre ne rentre pas en état de suggestion, c'est-à-dire en état de manipulation. Donc c'est vrai que ce test opère toujours parce que ça permet au prédateur de vérifier tout le temps qu'il soit dans son, en tout cas dans sa droite ligne de conduite pour arriver à dominer l'autre et à le contrôler.
Voilà, il est en plein dans la manipulation. Là, vous nommez secte. Une secte fait penser à un gourou. Est-ce que derrière ce prédateur, cette personnalité narcissique, on pourrait aller jusqu'à dire que ce profil correspond au gourou d'une secte?
C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je parle de personnalité dominante, parce que qui englobe même les sectes en fait et les personnes qui sont à la base de sectes, effectivement. Tout à fait, oui. Oui.
Alors, comment s'en sortir si on est peut-être très proche d'une communauté avec ses tendances un petit peu, ses faiblesses qui pourraient se rapprocher aussi véritablement d'un esprit sectaire, avec les profils que vous décrivez de domination et de prédateur?
Il faut voir à quel niveau est la personne sur les stades d'entrée dans le processus d'emprise. Ce qui est de mauvais pronostic, c'est chaque fois quand la personne devient isolée, socialement ou familialement. C'est-à-dire que si la personne arrive encore à garder du lien, si elle partage ce qu'elle vit, parce qu'il faut comprendre aussi que dans ces processus-là, la personne va être isolée et souvent malheureusement isolée de la famille. Le plus compliqué, le plus difficile, c'est quand elle perd ça. Sa disposition à être sujet pensant, à être libre de penser, parce que là, ben, il va falloir espérer, parce que le mot est qu'à un moment, elle puisse se recouvrer dans le temps, en tout cas l'esprit critique, pour arriver à sortir et à s'en sortir. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a des familles qui veulent vraiment dire clairement, mais tu es avec un gourou, tu es dans une secte. Et ça, c'est important que les auditeurs le sachent. Plus on va stigmatiser le dominant, plus on renforce le lien de coercition, de dépendance, en fait, et d'emprise. Et c'est ça qui est douloureux pour les familles quand elles voient un des proches qui part ou qui est parti. Je dis souvent qu'il faut garder la porte ouverte et surtout ne pas critiquer le dominant ou le gourou parce que ça renforce le lien. Et c'est douloureux. Il faut toujours rester dans une approche non jugeante et non discriminante de la personne. Voilà.
Merci infiniment pour cette intervention du jour, Nicolas Sajus. Je vous propose de vous retrouver dès demain, ici même, à la même heure. Merci. À demain.